On m'a donné ce sujet, la mission d'éducation diversifiée. Nous sommes familiers à ce mot diversifié parce que nous avions eu une variété d'éléments à distinguer. Nous parlons de notre mission théologique et nous devons avoir différentes approches et comment nous prestons. Lorsque nous parlons de la mission, ce doit être une éducation avec la perspective de l'éducation. Dieu est en mission depuis le premier jour et il nous appelle à le rejoindre dans cette mission. Nous avançons et nous nous attendons à voir une éducation théologique diversifiée. Je crois que certains d'entre vous, vous êtes déjà à l'aise, vous connaissez cette éducation. Il y a un mois, je lisais, j'enseignais et je préparais ce sujet. Et ça m'a permis de mettre ensemble certaines phrases. Il y a un livre que j'ai lu et certains des éléments que vous allez avoir ici, je les ai extraits de ce livre. Mais si nous devons être diversifiés, nous devons donc être focalisés sur la mission, nous devons comprendre certains éléments. Ces éléments dont nous sommes en train de gérer, nous devons comprendre les personnes que nous essayons de cibler, nous devons aussi comprendre la croyance africaine. Et là, on se débat avec certains éléments. Et l'une des éléments les plus difficiles d'être chrétien en Afrique, c'est que nous sommes en train de faire face à une situation en continuelle évolution. La chose la plus difficile, c'est que, alors, un croyant africain doit gérer beaucoup des éléments. Alors il se dit, mais comment est-ce que je vais vraiment m'imbriquer dans ce monde? Premier monde, c'est le monde de la croyance africaine. Ce monde est représenté par plusieurs éléments que nous étudions. Dès que vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, et ces mots que j'ai l'habitude d'entendre, cela veut dire que vous êtes sauvé, vous êtes justifié. Alors c'est que vous êtes sauvé. Vous entrez dans ce monde quand vous confessez le Christ, vous avez l'Évangile, vous prêchez et c'est votre réalité. C'est votre réalité, vous êtes vraiment engagé dans ce monde. Et le deuxième monde, la culture africaine. Et dans cette culture qui est représentée déjà par le nom que vous portez. En Afrique, les noms sont donnés à partir des événements, les circonstances, et qui sont nommés deux fois aussi par nos ancêtres. Donc cela vient de la culture. Lorsque vous lisez les journaux, vous suivez les nouvelles, tout ce que vous entendez, c'est vous dit, vous parle de votre culture, qui vous êtes comme Africain. Dans ce monde, il y a un grand engagement, un grand désir. Par exemple, nous avons des mots comme les traditions, les esprits, le développement. Des fois, vous entendez parler de la pauvreté. Et ce sont des mots très, très, très lourds. Et vous arrivez à un moment Vous dites que je suis dans ce monde, c'est notre culture, c'est ce que nous sommes censés faire. Alors donc, laissons d'abord Jésus à côté et alors engageons-nous donc dans ce monde. On veut aussi être complètement engagé en Jésus, mais on a aussi cet attachement qui est très profond avec ce monde. Si vous abandonnez votre héritage, vous désertez, donc vous serez en problème. Et il y a un troisième monde dans cette culture qui est représenté. Lorsque je regarde tout le monde qui est ici, ça c'est pas vraiment, c'est pas l'Afrique. Je ne dis pas que c'est erroné, les genres de nourriture que nous mangeons, ça c'est vraiment le monde moderne, les vidéos, les films que nous voyons, ce que vous êtes surtout familier, et tous ces éléments, les aventures, les analyses, vous entendez cela, c'est pas vraiment l'Afrique, c'est moderne, et vous voulez vous imbriquer, et c'est ce qui arrive. Je crois qu'un chrétien en Afrique est en train de faire face à cela. Et nous avons donc ce monde qui est en changement. Et alors vous entrez dans, vous avez la technologie, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, tous ces éléments qui que vous voulez aussi rester dedans. Mais en tant que croyant, nous devons faire quelque chose. Mais comment est-ce que je vais maintenant gérer et d'où je dois commencer? Et ça, c'est un des grands défis que nous sommes en train de faire face. La crise africaine, c'est cet écart entre les trois mondes. J'aime être un croyant, j'aime être africain. J'aime aussi être dans le monde moderne, mais nous n'avons pas tellement fait pour aider que les Africains puissent comprendre ces trois mondes et comment alors gérer cela. Et nous avons donc la recherche d'une théologie qui remplit ces écarts. Nous avons le Christ, alors là nous avons la foi chrétienne, ça c'est la culture chrétienne. Et c'est ce qui doit définir tous les autres éléments. Et il y a un écart. Alors, j'ai mis cela en guillemets, donc... la théologie africaine de l'évangile africaine. Alors, ça, c'est le premier monde. Alors, et nous avons Jésus-Christ que nous découvrons dans les Écritures. Il a amené donc dans la culture et dans le monde moderne. Lorsqu'on parle de former, nous devons savoir comment former. Et voilà, ça c'est la réalité d'un croyant africain. Nous devons arriver à ce point où la représentation des Écritures dans tous ces mondes, la culture africaine, le monde moderne, et alors donc le monde chrétien est maintenant le filtre. Et comment nous allons le faire? C'est une réalité en Afrique. Comment nous devons faire avec tout ça? Je pense que la réponse à cette question se trouve dans cette salle. Nous sommes la réponse. Nous sommes la réponse à cette question. Comment? Alors, nous sommes la réponse. Nous sommes la réponse. Pourquoi? Parce que nous avons... les personnes avec donc la torche Alors, lorsque il était en train vraiment de parler de la vision, il a mentionné, on nous a responsabilisé de quelque chose qui est très précieux. Tout le monde dans cette salle, nous représentons des milliers de gens et nous représentons. Il y a cette responsabilité unique d'être les représentants du Christ. J'aimerais bien paraphraser le 2 Corinthiens 5 et Paul dit, et donc nous sommes les ambassadeurs du Christ et Dieu est en train de lancer son appel à travers vous et c'est pourquoi nous vous demandons d'être réconciliés en Christ et vous êtes la réponse à cette question. Et comment nous allons atteindre tout le monde avec la vérité de l'Évangile, toute personne en Afrique et aussi atteindre le reste du monde. Nous sommes la réponse parce qu'aussi nous sommes les éducateurs de la théologie. Si nous ne faisons pas quelque chose et ce combat et qu'on continuera à être une réalité et cela va continuer à nous hanter. John Beatty a dit quelque chose, de très fort. John, les chrétiens en Afrique, ils vont la foi pas dans une autre théologie. L'église en Afrique alors sont eh bien, ils sont un peu disséminés. Alors, ceci peut lancer un débat. Il y a un écart et quelque chose doit être entrepris. Et je crois que chaque pasteur a besoin de la formation. Il faut d'abord reconnaître. À gauche, vous devez aussi reconnaître l'autre bâtiment, mais vous ne reconnaissez pas cette chaumière. Alors, vous ne savez même pas d'où j'ai tiré cette photo. Nous parlons de la diversité, nous sommes des missionnaires. Alors, nous devons rejoindre Dieu. Il appelle ces gens, il essaie d'atteindre les gens, car celui le Créateur, il appelle les gens, il nous demande, il nous donne ce privilège de le rejoindre en ce qu'il est en train d'entreprendre. Et c'est ce que nous étions en train de faire. Nous focalisions sur les doctorats, les masters, et je crois que tous, nous avons besoin des gens comme vous. Mais, alors donc, c'est vraiment juste une petite fraction des leaders, des pasteurs, donc des ministres de l'Église. C'est pas tout le monde qui peut aller là. Personne ne peut aller à Midwest dans tous ces séminaires baptistes, Oxford, Southwestern. J'étais en train vraiment d'y penser. Donc la formulation vient. Alors bon, là, c'est le séminaire ougandais. Là, c'est UBS, le séminaire ougandais. C'est pas tout le monde qui peut aller à UBS. Parce que le conseil d'éducation demande, a mis des conditions que si vous voulez rejoindre ces institutions, vous devez avoir, remplir certaines conditions. Ces deux institutions sont surtout les gens qui vivent en ville, ceux qui ont une certaine formation, qui ont des ressources pour y aller. La question, alors, qu'en est-il de ce pasteur? Ce petit pasteur qui n'a pas, alors, ses niveaux, qui n'a pas ses finances, qui ne parle pas l'anglais, il ne peut pas, alors, aller dans ces institutions d'éducation. Alors, j'ai placé ce point d'interrogation. Alors là, j'ai tiré ceci de Oyam, dans l'une de nos écoles bibliques. C'est une église. Cette église a 7 ans d'existence. Cela est pertinent. Est-ce que c'est pertinent sans parler de cette école? La formation que nous donnons, sachant que les gens qui viennent dans ces écoles, c'est l'élite, la crème de la crème, ceux qui ont déjà eu une certaine formation. Est-ce que nous atteignons la majorité dont nous aimerions atteindre? Et ceci me pousse à poser une question. La question est celle-ci. Est-ce que cette catégorie de formation a laissé un écart entre les leaders urbains et les leaders ruraux? Ceux qui peuvent aller dans les séminaires, ceux qui ont déjà une certaine formation, ils peuvent lire, écrire, remplir les conditions requises. Alors qu'en est-il donc de ceci? Est-ce que nous avons créé donc un écart? La majorité n'est pas alors atteinte, ciblée. Alors, l'hypothèse est que si ces genres de formation a créé un écart parmi les élites du monde rural et du monde urbain, alors combien de pasteurs nous avons ignorés? J'étais en train de lire dans le site web de AB et dans la publication, ils croient que tout simplement au Kenya, alors on a 3000 ministres, pasteurs au Kenya, c'est seulement 300 de ces 3000 ont été formés. C'est juste 10%. Alors, si 300 sont formés, alors qu'en est-il de 2700? Ils ne sont pas. Alors, ils ont des congrégations, ils ont des gens qui viennent les écouter, mais s'ils ne sont pas formés, alors qu'en est-il de leur prédication? Est-ce que nous pouvons dire qu'ils sont baptistes s'ils ne comprennent pas donc les principes de l'Église baptiste? Alors, s'ils ne sont pas formés à gérer, c'est-à-dire que les églises sont en train de être créées, mais... Donc les baptistes, on les appelle les gens du livre depuis très longtemps. Alors ça reste tout simplement un titre parce que nous avons des milliers de nos ministres qui ne sont pas au courant, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que la Bible prêche à cause de cette formation, de cet écart que nous avons créé. Nous avons créé ceci. Il y a cette théologie académique. Je vais donc en parler contre la théologie populaire. La théologie économique, c'est pour les leaders internationaux et cela n'est pas vraiment en Afrique. Pour nous, la théologie, nous avons lu, nous écrivons, nous sommes transformés et nous essayons d'enseigner, prêcher, nous sommes informés, nous commençons à comprendre le livre que nous lisons et ce qui est important pour nous comme élite, c'est pas important pour ce prédicateur qui est à la campagne. Nous pouvons enseigner, prêcher, être ancré dans la Bible, mais eux, ils ne le font pas. Alors, quelle est leur prédication? Ils prêchent ce qui est populaire. Ce qu'ils entendent, c'est que tout le monde est en train de faire. Alors, donc, ce sont les ministres qui n'ont pas été informés et chacun copie l'autre et l'autre. Cet écart, ceux qui connaissent la réalité et ceux qui ne sont pas au courant et qui suivent tout simplement une tendance. Et je crois, c'est pourquoi, donc, cet évangile de la prospérité, des fausses prédications. Alors, lorsque les prêcheurs de l'évangile de la prospérité arrive, ils savent comment être connectés à la radio et déjà dans nos maisons, les membres de la maison, ils ont aussi la télévision, c'est ce qu'ils voient et c'est ce qu'ils entendent et c'est ce qu'ils sont en train d'imiter, de copier et qu'ils prêchent à leur congrégation. Et c'est ce qui compte, c'est ce que vous entendez, c'est ce que vous entendez dans les cantiques, dans les chansons et les genres de prédication, des conseils qu'il est en train de donner. Malheureusement, même dans les églises baptistes, certaines des églises baptistes, nous commençons à entendre la graine. Voilà, quelque chose est en train de... Mais non, ceci, ça s'est mixé dans les églises. Nous, les gens qu'on dit, les gens du livre, de la Bible. Alors, quand je suis allé au village visiter les membres de la famille, quelqu'un était en train de prêcher. Alors, il avait tellement abusé la parole de Dieu pour tout simplement soutirer l'argent des gens qui l'écoutent. Et, si, il y a quelque chose dans la boîte. Alors, dès que vous voyez la boîte, vous voyez Dieu, quelque chose que la boîte représente. Alors aujourd'hui, nous prêchons dans la boîte. Dès que vous voyons la boîte devant vous, assurez-vous que la boîte n'est pas vide. Parce que si la boîte est vide, vous avez la malédiction. Et ceux qui ne sont pas informés, alors ils s'assurent que la boîte n'est pas vide. Et ses membres, soudainement, se sont rendus compte que ce n'est pas la réalité, ce sont des mensonges. Les gens ne peuvent pas comprendre que c'est un mensonge parce qu'ils n'ont pas été prêchés la réalité. Parce que donc, les prédications doivent être guidées par la parole, la façon dont les pasteurs prient, cela vraiment va à l'encontre de la parole. Alors, qu'en est-il? Et c'est la réalité de ce que nous sommes en train de faire face ici en Afrique. Et alors, qu'est-ce que nous devons faire? Où allons-nous pour le moment? Je crois que la réponse est là. Donc, les écoles locaux de la Bible. Nous avons vu des bâtiments qui sont très jolis. Et puis, bon, cette église que nous avons vue en bas. Nous aimerions avoir des licences, des doctorats. Alors, il faut que nous puissions avoir des gens qui préparent les leaders locaux. Ceux qui sont capables de venir dans les séminaires sont juste une petite fraction. La majorité de nos Donc, de nos pasteurs ne peuvent pas venir dans les ministères, dans les séminaires. Si nous devons faire ce que Dieu nous appelle, et nous devons donc faire la multiplication de ce que Dieu nous a donné, nous devons avoir l'intention que chaque ministre de l'Église en Afrique et partout dans le monde, donc, qu'il soit formé. C'est la seule voie. Nous serons de cette façon capables non seulement changer notre continent, mais aussi changer le monde et faire en sorte que chaque ministre de la prédication soit formé. Il faut leur donner la vérité de la parole de Dieu. Vous pouvez former une personne et cette personne rentre dans sa congrégation et peut prêcher la vérité et prêcher l'autorité de la parole. Alors vous avez changé cette congrégation. Et lorsque cette congrégation a changé, vous changez la communauté, vous changez la nation. Une personne au cas par cas. Et c'est notre focalisation. Lorsque nous avançons, lorsque nous partons d'ici, cela ne doit pas être négligé. Je crois, pendant les programmes des écoles bibliques locaux, nous aimerions que le séminaire continue, mais nous aimerions que les gens continuent à avoir leur licence, leur doctorat, leur master. Nous avons aussi besoin d'atteindre ceux qui n'ont pas la possibilité de rejoindre ces écoles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des ressources, ils ne maîtrisent pas la langue, mais ils sont en train de servir. Nous devons les équiper. Et bien sûr, le programme que vous allez avoir doit être bien simplifié pour qu'il puisse être compréhensible par les pasteurs locaux, les leaders. Et vous pouvez aussi le faire. Alors, leur parler dans la langue donc vernaculaire, et vous pouvez donc avoir ces programmes, les contextualiser de sorte que le pasteur, il ne faut pas qu'il puisse avoir tous ces mots pédants. Et il faut qu'il puisse comprendre systématiquement. Quand je prêche en différentes places, et la première question que nous nous posons, alors que dit la Bible? La première question, alors que dit la Bible? Et à cause de ça, la plupart d'entre nous, j'ai ce que je suis censé le faire, mais non, je vais dans les Écritures, quelle partie des Écritures je vais alors manipuler pour alors se conformer à ce que j'aimerais prêcher. Ça, c'est pas l'approche. Je vais dans les Écritures, et alors que dit Dieu concernant ce que je veux prêcher? Alors Dieu informe ma décision. Alors est-ce que je vais prêcher pour sa gloire? Alors pourquoi nous sommes accaparés de la parole, de la gloire de Dieu? Alors j'essaie maintenant de voir, et maintenant je vois quelle écriture de la parole qui va alors sous-tendre à ce que je veux prêcher. Nous devons commencer avec Dieu. Alors nous dirons, c'est Dieu qui a fait le travail du début et jusqu'à la fin. Et ça, c'est nous aimerions voir Dieu, non pas seulement à la fin, mais déjà du début, le processus. Dieu est toujours impliqué. C'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est la mission de Dieu, le Dieu qui nous a appelés et qui soit impliqué dans tout cela. Nous avons besoin de former des pasteurs qui sont à la base, qui sont ancrés dans la prédication basée sur la Bible. Il faut leur aider à comprendre. Dans certains lieux, Comme dans le livre d'Isaïe, où Dieu dit, venez, nous allons discuter ensemble. Et ces pasteurs ne sont pas au courant. Parce que lorsque vous dites non, vous devez vous assurer qu'ils comprennent de quoi s'agit-il. Cela peut aussi signifier que de voir ce qu'ils sachent et alors leur expliquer que lorsque Dieu dit ça, alors donc vous pouvez utiliser cela. Et quelquefois, il y a cet écart. Quand je suis en train de prêcher, vous voyez des gens qui sont en train de bâiller. C'est pas tout simplement ils ont faim ou fatigués parce qu'ils ne sont pas connectés. C'est pas qu'ils ont faim. Il faut leur prêcher, même si c'est dans la langue de leur village. Lorsque vous parlez de la langage du cœur, et cela donc les transforme plus que vous pouvez imaginer. Alors, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire ceci, ils ne maîtrisent pas l'anglais, alors il faut les enseigner dans la façon dont ils peuvent comprendre si cela, c'est la langue locale vernaculaire. Alors, quelle langue vous êtes en train d'utiliser? Est-ce que vous avez été préparé dans la parole de Dieu pour aller prêcher avec confiance concernant la foi? Alors, nous devons le faire. Parce que, au final, lorsqu'ils rentrent dans leur communauté, ils ne vont pas prêcher en anglais, ils vont alors prêcher dans leur langue vernaculaire. Deuxièmement, alors, les évangélistes doivent comprendre et interpréter le contexte, le vrai contexte de la Bible. C'est tellement facile de abuser la parole de Dieu si vous ne respectez pas le contexte. Lorsque vous lisez le premier Corinthiens chapitre 7, c'est bon qu'un homme ne puisse pas se marier. Alors, combien d'entre vous sont mariés ici? Alors, la Bible dit que c'est pas bien de ne pas, alors, c'est pas bien donc de vous marier. Vous devez alors divorcer votre femme. Alors, vous devez lire, mais à cause de l'immoralité, il est bien que chaque homme puisse avoir un mari et une femme aussi son mari. Vous devez repentir. Alors, est-ce que vous n'êtes pas marié? Ah, pour le moment. Alors, donc, la Bible dit vous devez avoir un mari. Et alors, mais non, c'est une autre signification. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos églises baptistes, dans le monde rural, parce que ils ne peuvent pas prêcher dans le contexte. Et alors, dès qu'ils tirent un verset, ils peuvent donc dire n'importe quoi. Nous devons changer tout le monde de la base. Et alors, construire étape par étape, même ceux qui ont des diplômes, des masters. Alors, vous avez déjà entendu ceci. Ce qui est bien, c'est que... Alors, vous allez dire qu'il est venu, mais il n'a pas préparé sa présentation. J'ai préparé ceci il y a longtemps. Moi, avec l'auteur, c'est mon professeur au séminaire. Et je comprends sa passion. Et c'est pourquoi il l'a mentionné même hier. Et c'est pourquoi maintenant je peux le paraphraser. Si vous vous rappelez ce qu'il a dit hier, quand il a prêché du livre d'Ézéchiel, Isaïe, il a mentionné Néhémie, ces gens qui rentraient de l'exil. Lorsque ces gens revenaient de l'exil, alors les routes étaient bloquées, Alors Jérusalem était détruite, et alors il était question maintenant de enlever les pierres, les rocs. Nous sommes supposés de faire cela. Nous sommes ici, nous avons été équipés, nous avons les outils, mais alors nous avons encore des blocs constitués par ces rocs. Nous devons éliminer ces rocs. Ils ne peuvent pas aller au séminaire à cause des finances. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour enlever ces obstacles pour qu'ils puissent avoir la formation? Nous devons faire cela. Je vais vous dire aussi ce que nous faisons, et cela brièvement. Alors, East African Outreach, cette campagne d'évangélisation, nous sommes supposés fournir une formation pour les pasteurs, les leaders dans l'Est Afrique, leur donner des cours de base pour fournir donc des leaders de l'Évangile, même dans le monde reculé. Alors, nous l'avons fait déjà en Ouganda. Maintenant, bientôt, nous serons au Kenya. Nous sommes à Kitale, près de la frontière. Un tout petit peu, bientôt, nous allons travailler avec nos amis du Kenya. Et ce sera la Tanzanie, le Nigeria. C'est notre objectif. Et nous aimerions travailler avec l'association des églises baptistes. Et voilà, c'est notre point de contact. Et nous encourageons les autres qui sont là. Et nous avons vu cela arriver. Et à la fin de la formation, est-ce que nous pouvons alors commencer une église et l'appeler baptiste? Nous avons vu cela arriver. Mais la raison pour laquelle nous aimerions créer cette école biblique, alors c'est en 2008, notre fondateur était à une conférence à Mbale, et c'était une conférence des pasteurs. Pendant qu'il était de prêcher, il a posé une question. Combien des livres nous avons dans la Bible? Aucun de ces pasteurs n'a pu répondre à cette question. Et la personne qui traduisait, alors, avait un problème de... pensait qu'il y avait un problème de traduction. Alors, c'est après... Alors, il y a un pasteur qui a dit, il y a... alors, 69 livres. Et le pasteur ne pouvait pas donc comprendre combien des livres. Alors, ce sont des pasteurs. Et c'était vraiment un choc. L'un de ces pasteurs, c'était au mois de mai 2008. Et l'un des pasteurs était donc reçu le salut en 2007. Alors, il est en train d'évangéliser. Et c'est là que nous avons compris qu'il y avait un grand écart. Alors, nous devons faire quelque chose. Nous essayons de faire quelque chose. Et bien sûr, les cours sont vraiment basiques. Ce dont ils ont besoin, vous pouvez déjà voir, ce sont une petite enquête. Il faut leur donner quelque chose de consistant. Même s'ils ne vont pas continuer, ils sont déjà bien équipés. Et c'est à peu près 300 heures. Et c'est pourquoi ce que vos séminaires peuvent faire, vos églises peuvent faire, on se rencontre une fois par semaine. Et 10 fois par... Donc pour 10 mois, ceux qui auront déjà alors complété, alors qu'ils complètent toutes les réquisitions, et c'est faisable. Vous allez dire que peut-être, même si c'est 3 jours par semaine, ça va prendre plus de temps, mais vous les formez, vous les atteignez, parce qu'il faut avoir l'intention d'assister nos pasteurs locaux quelque part. Alors, le programme de l'école biblique continue à répondre aux besoins des pasteurs dans l'Est Afrique. Nous étions vraiment choqués de ce que nous avons trouvé. Lorsque nous commençons à enseigner, alors nous voyons les gens donc lire leur Bible. Est-ce que vous nous avez donné une nouvelle Bible? Non. Alors vous voulez nous dire que toute la Bible est dedans et nous n'étions pas au courant, parce que depuis très longtemps, certains d'entre eux, nous avons même des pasteurs qui n'ont pas de Bible. Dans tout le village, on avait 10 pasteurs et ils n'avaient qu'une seule Bible qu'ils étaient en train de partager. Et quand vous êtes dans le besoin, vous venez à moi et je dois prêcher de la mémoire selon ce que je me rappelle. Alors, lire, étudier la parole. Des fois, nous sommes allés dans des lieux où, et ça devient vraiment très clair que les gens ont besoin de la formation. Les églises ne peuvent être vraiment robustes que leurs leaders le sont. Alors, l'église ne peut pas être stable si le pasteur n'est pas ancré dans la parole. Donc, on a besoin des formations. Jusqu'ici, nous avons déjà créé 121 écoles bibliques, donc des 121 diplômés. Et là, c'est juste une petite fraction s'il faut considérer la population de l'Afrique. C'est juste vraiment une goutte dans l'océan. C'est pourquoi je continue à prêcher. Et lorsque nous envoyons si nous envoyons ceux qui peuvent aller au séminaire, mais nous ne devons pas aussi marginaliser, oublier les autres. Alors, c'est juste quelques images. Là, c'est une salle de classe. Ce sont des locaux. Ça, c'est dans un camp de réfugiés, dans West Line. Là, on demandait donc les diplômés d'être fidèles à la parole, à la prédication. Alors, comment est-ce que les séminaires peuvent assister? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et c'est la question que nous allons maintenant discuter. Est-ce que les séminaires peuvent entrer en partenariat avec les écoles bibliques? J'espère, je suis en train de parler au nom des autres centres de formation, des pasteurs. Et j'espère donc, je parle au nom de toutes ces écoles qui sont disséminées. Vous savez, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est quelque chose qui est en train maintenant de... Alors maintenant, arriver au Rwanda, si vous n'avez pas une formation, vous ne pouvez pas prêcher. Pendant que nous faisons cette formation, nous avons aussi besoin des pasteurs qui ont été formés. Nous espérons que d'une institution qui est reconnue. Alors, c'est pourquoi est-ce que c'est possible que nous puissions faire de partenariats? Peut-être des affiliations, si c'est possible. Alors, il faut expliquer ceci au séminaire, au pasteur. Est-ce que vous pourriez aussi assister dans la certification? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors là, une slave d'acclamation pour lui. J'ai demandé à Jacob de parler de la théologie diversifiée. Quand je me déplace dans des différents lieux, les séminaires qui sont impliqués dans ce processus, mais nous avons aussi des écoles bibliques. Alors, ils amènent une certaine légitimité, une certaine supervision, un chapeautement. Alors, je l'ai vraiment coupé la parole. Vous avez quelques minutes. C'est ce que je vais vous demander de faire. Alors, il y a certains partenaires qui sont ici, qui travaillent avec nous, qui font ces genres de choses. Et ils peuvent assister en termes de curriculum et même la logistique. Alors, nous vous demandons de vous lever juste pour 5 minutes. Alors, ceci, vous allez retrouver dans l'exposition des ressources. Il va prendre 3 minutes pour nous expliquer. J'ai tellement apprécié ce que vous dites. Je dis cela à tout le monde qui parle de l'éducation théologique, ce genre de programme. Alors donc, c'est comme des amis, mais pas comme des concurrents. Dans la jungle, dans la zone urbaine, nous avons des formations qui doivent être entreprises. Et nous avons une école biblique. Alors, nous avons 16 cours. C'est une formation qui peut vraiment alors localiser, être multipliée dans un contexte local, parce que notre rôle, c'est assister, et nous ne voulons pas être un obstacle. Nous devons assister ces formateurs. L'objectif est que alors que la deuxième promotion soit la deuxième formation de formateurs doit être indigène. Nous aimerions aussi que d'autres personnes puissent nous dire la même chose. Nous aimerions être vos partenaires, mais pas des concurrents. Alors tous, nous pensons à une théologie avancée. Alors, renforcer les capacités sur la place. Donc, nous devons remplir cet écart. Alors, je vous félicite parce que nous faisons partie de cette conversation. Alors, c'est John.
Je voudrais vous dire merci. Beaucoup d'entre vous m'avez aidé avec la nourriture et beaucoup de choses. Je vous dis merci. Reaching and Teaching, un programme semblable à ce qu'ils sont en train de faire, de la manière formelle et informelle. Notre passion, c'est de pouvoir les formations théologiques, surtout aux frères qui n'ont pas accès à la formation théologique dans des universités. Alors, faire un peu de programme d'apprentissage, de formation, un programme de 3 ans, comme ce qui se passe ici. Donc, notre désir, c'est de voir qu'à la fin de la formation, le bâton se transmet. Des fois, nous prenons plus de temps avec plus de formation où cela est nécessaire. Et nous voulons bien sûr être en mesure de pouvoir le service théologique avec tous les thèmes possibles, avec des formations spirituelles, la discipline spirituelle, et puis le ministère pratique. Comment mettre en pratique au niveau de l'église locale, pas seulement informer les pensées, mais aussi les cœurs, les têtes, les cœurs, et aussi les mains. Alors, nous serons contents de parler avec vous. Et aussi, je vous demanderai de vous mettre debout, Ken. Il y a, vous avez vu Ecclesia là-dehors. Une autre chose qu'ils ont, c'est le curriculum Soma, qui est la proximilaire. Similaire. Pas nécessairement un système d'école biblique, mais c'est un curriculum pour une école biblique. Nous ne formons pas, nous développons donc des curriculums et on donne cela aux formateurs. À la fin, nous voulons qu'ils puissent avoir des bibliothèques. Comme ça, la formation se fait d'une manière. Le pasteur utilise un livre chaque mois et le livre vient avec un programme d'apprentissage. Il écrit et puis ils vont discuter. Et dans ces discussions, ça fait partie de votre vie ministérielle. Nous cherchons des partenaires qui sont déjà en train de former, mais qui pensent qu'ils n'ont pas de curriculum, qui peuvent utiliser, qui est robuste pour aider les étudiants avec des bibliothèques théologiques. Nous sommes là pour travailler avec les institutions pour que les travaux puissent être durables et aider plus d'autres églises. Vous avez certain de ça en Swahili, oui. Applaudissons pour Jacob encore une fois. Mettons-nous debout et ne quittez pas la salle, s'il vous plaît, juste pour... Non, vous voulez dire quelque chose? Micro, s'il vous plaît. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que... Ce qu'il est en train de dire, c'est que nous avons des choses pareilles partout dans le continent qui sont nées. Alors, nous avons de l'éducation théologique. Et quand ils voient le besoin, ils disent, bon, est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et pour être honnête, ça c'est mon témoignage. Une des premières choses qu'on a commencé à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Toutefois que j'ai dit la Zambie, tu es content. Et comme quelqu'un qui a planté des églises dans des lieux ruraux, on plantait les églises pour former les dirigeants. On a eu nos propres écoles bibliques. On a fait nos propres curriculums. C'est quelque chose qui s'est fait déjà partout en Afrique. Et je pense, c'est ça le cœur d'Apten. La réponse est oui. Nous voulons savoir ce que tout le monde est en train de faire et on veut faire des réseautages ensemble pour qu'on ne puisse pas réinventer la volonté et deuxièmement pour ne pas nécessairement à pêcher de la piste de la place de l'autre. Les baptistes au Kenya qui a des séminaires ici allaient jusqu'en Ouganda par exemple pour aller apprendre là-bas. Il y a des raisons. Je pense que nous avons besoin. Ça fait partie de ce réseautage. C'est vous mettre au courant de ce qui se passe. Il y a aussi une manière formelle que nous pouvons faire ça dans l'avenir. Que ce soit le site Apten ou n'importe quel autre partenaire, je pense que nous avons fait la suggestion avant et d'autres réunions de réseautage. Nous n'allons pas seulement laisser les... Nous travaillons dans plus de 50 pays maintenant en Afrique. Et nous avons ces problèmes dans le reste du monde. Si je savais que nous étions en train d'atteindre et enseigner... Mais d'autres ministères aussi travaillent. Et je peux dire, non, mais il y a un autre ministère là-bas. Vous n'avez pas besoin de nous là-bas. Non, ça serait un bon ressource. Je sais que mon autre ministère voudra faire ça. C'est peut-être quelque chose qu'il faut aussi dire. Nous voulons travailler en collaboration et non en concurrence, n'est-ce pas? Alors, j'avais dit, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Pour 2 minutes... Parce que nous devons avoir notre présentateur souvent venir en place plutôt.